L'IP est vraiment l'événement emblématique de l'histoire du PSU, objectivement.
Guy Philippon a été un membre dirigeant du PSU. Il a rejoint les Verts en 1998. Né en 1927, son histoire politique accompagne celle de l'une des branches à l'origine de ce que sont les Verts aujourd'hui.
Il y a un film qui est remarquable, qui a été publié sur l'IP, qui montre l'importance de cet événement de l'IP, avec quelque chose de paradoxal. C'est que tous les animateurs de l'IP, Vitole, Ragnès, etc., étaient membres de ils ne s'appelaient pas section, ils s'appelaient cellule du PSU. Et ils étaient à la fois membres de la CFDT et du PSU. Dans ce film sur l'IP, on mentionne évidemment, on voit beaucoup Piaget et un certain nombre des dirigeants de cette époque, mais on ne mentionne pratiquement jamais qu'ils étaient en fait membres du PSU et de PSU. On parle du PSU uniquement pour la période où, pour sauver l'IP, Rocard a fait appel à un patron, comment il s'appelle, Neuschwander, un patron Neuschwander, et on signale que Neuschwander est un membre du PSU. Alors c'est quand même ahurissant qu'on ne dit pas que les ouvriers animateurs de l'IP étaient membres du PSU, et on cite uniquement, sinon le film est absolument remarquable. Donc le thème de l'autogestion, qui est apparu, qui était élaboré conjointement par la CFDT et le PSU, mais qui remonte plus loin dans l'histoire avec au niveau des libertaires et des anards, a été un moment important dans l'après 68, dans la lutte idéologique entre le PSU et PSU et CFDT, et d'autre part les forces classiques, PC essentiellement, mais Parti socialiste aussi. Donc à l'IP, le rôle du PSU a été déterminant. Le PSU a organisé pour leur permettre de survivre des ventes de montres du trésor de guerre qu'avait amassé les LIP. Il y avait un stock au siège national du PSU rue Bormet. On a organisé des ventes dans pratiquement toute la France pour leur permettre de se payer, comme il disait dans le fameux slogan « on produit, on vend, on se paie ». Donc le PSU en tant qu'organisation a joué un rôle essentiel, la CFDT aussi. Hein. Oui, c'est un aspect que malheureusement le mot « autogestion » n'est actuellement plus beaucoup repris, alors que je pense que quelque part il correspond à la conception de la démocratie des Verts. Et je ne sais pas pourquoi les Verts ne reprendraient pas ce thème. Pour l'instant, la seule force qui s'en réclame, ce sont les alternatifs qui sont issus aussi du PSU, mais qui représentent une force très faible. Ils doivent être 600 ou 700 actuellement dans toute la France. Donc là, dans le 20e, on a tiré plusieurs affiches sérigraphie, dont une qui est ici, dont le texte est « L'IP aujourd'hui, grève active autogérée, au milieu un bracelet de montre avec une montre, en dessous, demain, la révolution et l'autogestion socialiste ». Et la signature du PSU. C'était une entreprise horlogère, horlogère de pointe. C'était la marque dominante en France. L'IP avait des magasins partout, c'était vraiment la marque reconnue partout. Et c'était une usine donc de haute précision qui a raté à cause de son patron, la transition vers les montres à quartz. Donc elle était en déclin et c'est pour ça que s'est posé le problème de sa survie, d'où le mouvement des LIP. Ça n'était pas qu'une usine de montres. Il y avait en même temps une usine qui était liée à l'armement, avec entre autres des instruments pour les têtes de fusée, des instruments, comment dire, horlogers, on peut dire. Et pour raconter une anecdote qui est quand même intéressante, j'en ai encore dans ma cuisine. Quand ils ont eu cette action très imaginative d'occupation d'usine, ils ont essayé de reconvertir toute leur production de façon comment dire, plus autogestionnaire. Et avec les pointes de fusée, ils ont fait des minuteurs pour la cuisine. J'en ai un qui est un peu cassé, mais que j'ai encore là. On voit très bien que c'était une tête de fusée. Ils ont aussi, à cette époque, lutté sur le plan idéologique, avec un jeu dont j'ai un exemplaire qui s'appelle le chômageopoly. On connaît beaucoup le jeu du Monopoly, où il s'agit de jouer pour acquérir des hôtels, pour amasser une fortune. Le chômageopoly est un jeu qui, à l'inverse, privilégie les aspects collectifs et ça se joue aussi avec des dés sur un échiquier, et comment dire, on gagne des points, ça s'appelle pas des points, chaque fois qu'il y a des trucs collectifs, et la finalité du jeu, c'est par rapport au licenciement, petite solution, moyenne solution, bonne solution, c'est un détournement idéologique. Mais la créativité des LIP a été extraordinaire. Et à cette époque, comment dire, cette expérimentation dans un pédagogique de ce que pourrait être l'autogestion a commencé à se répandre un peu. Il y a eu à Cerisy des femmes qui faisaient des chemises, qui ont adopté un peu le même système que les LIP, c'est-à-dire de reprendre en main leur entreprise pour produire elles-mêmes leurs chemises. Elles s'appelaient les PIL, PIL au lieu de LIP, elles avaient inversé, ça donnait PIL. Alors, son patron voulait la vendre, oui. La durée est difficile à définir, parce que il y a eu d'abord un essai de négociation. Ensuite, il y a eu l'occupation de l'usine, qui a duré quand même plusieurs mois. Et après, il y a eu la tentative Neuschwander de ce patron progressiste. Alors, et là, c'est décrit dans le film LIP, l'imagination au pouvoir, un film qui a eu un grand succès. Le film dit, avec une interview, Neuschwander, qui raconte explicitement que Giscard d'Estaing, qui venait d'être élu président de la République, et son ministre de l'Industrie, ont décidé de casser cette expérimentation de lutte autogestionnaire, avec l'idée qu'il ne fallait absolument pas que cette forme de lutte ouvrière se développe. L'idée de le casser par tous les moyens, y compris en asphyxiant financièrement, ce qui fait que Neuschwander dit, comme ça il a été obligé de démissionner, il s'est cassé la figure. Les ouvriers de LIP ensuite ont créé une coopérative ouvrière qui a résisté plus ou moins longtemps, qui a résisté plusieurs années. Voilà, mais c'est un moment important de la lutte des ouvriers. Ah, le PSU a critiqué, a toujours combattu la participation gaulliste en montrant les pièges, on peut dire, les pièges de la participation. Par contre, ce qui, avec le recul, quand même, est assez, pose question. Quand De Gaulle a compris, en fait, lui, après, mieux que d'autres, ce qu'avait signifié mai 68. Et en 69, il a fait un référendum avec, comme son habitude, avec son habitude, deux questions, dont une était la participation, justement, sous sa mode à lui. Et la deuxième était la mise en cause du Sénat. Le PSU, comme d'autres forces de Gaulle, ont appelé à voter non. Je pense avec le recul que si le Sénat actuel, le Sénat avait été démoli, ça aurait été un acquis qui aurait été fondamental. Donc on peut se demander si parfois l'opposition, la participation et ce piège que tendait de Gaulle a été une des raisons de voter non. Et parfois, les questions de tactique et de passion d'un moment, avec le recul, on peut se demander si on n'a pas fait une erreur importante. Alors, il y avait plusieurs aspects dans le vote non. Il y avait l'aspect donc de la question sur la participation, mais il y avait aussi l'aspect que c'était un an après 68 que la gauche voulait se débarrasser du général de Gaulle. Il avait annoncé clairement, et il l'a fait, que s'il perdait le référendum, il s'en irait. Donc la volonté de se débarrasser de De Gaulle a poussé fortement à voter non aussi. Il avait compris un peu la sclérose qui avait abouti à la société qui avait abouti à 68, dont le Sénat était une parfaite illustration. Mais je pense aussi qu'il avait vécu pendant toute sa vie de toute sa vie politique, depuis la période de la résistance jusqu'à la période de la guerre d'Algérie, il avait gardé une sorte de, je dirais de haine, c'est peut-être un peu fort, mais d'hostilité à tous ces notables que représentent parfaitement les Sénats. Il avait trouvé les notables provinciaux, parce que c'est beaucoup ça quand même le Sénat, contre lui. Pendant la résistance face à Pétain, ils avaient soutenu Pétain. Il les avait trouvés contre lui quand il avait voulu faire la paix avec l'Algérie. Ils n'étaient quand même pas très favorables à l'indépendance de l'Algérie. Ils l'ont trouvé contre lui, il était contre lui sur la participation. D'ailleurs, s'il a perdu le référendum de 69, c'est pas seulement que la gauche a appelé à voter contre, c'est que Giscard d'Estaing, représentant de cette droite, a appelé à voter non aussi.